question dont la réponse en surprendra plusieurs. Le chrétien doit-il faire un vœu de pauvreté pour servir Dieu? La parole de Dieu va nous aider à examiner notre cœur, aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on a encore de très bonnes questions à poser au dernier livre de la Bible aujourd'hui. Il ne faut surtout pas manquer les réponses qu'elle va nous donner pour notre instruction. Alors allons-y avec les questions. Qu'est-ce qui pousse les gens à dépendre de la drogue et de l'alcool? Quel sera le rôle des drogues pendant la grande tribulation? Qu'est-ce que l'Antéchrist va utiliser pour mettre le monde à ses pieds pendant la grande tribulation? Quel est le nom de l'idole des temps modernes? Est-ce qu'un véritable chrétien peut céder devant cette idole? Le chrétien doit-il faire un vœu de pauvreté pour servir Dieu? Est-ce que l'ange puissant décrit dans l'Apocalypse est le Seigneur Jésus? Les anges et les hommes peuvent-ils avoir des visages qui rayonnent comme le soleil? Restez des nôtres, le Seigneur va répondre à toutes nos questions par sa parole, par la puissance de son esprit, par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques secondes. Mais premièrement, prions. Merci Seigneur pour la puissance de ton esprit. Ton esprit qui nous ouvre l'intelligence pour qu'on comprenne ta parole. Ouvre notre intelligence maintenant, mon Dieu. Touche nos cœurs, touche-nous profondément. Aide-nous à voir ce que tu veux qu'on voit. Et à te voir aussi, à voir ton amour pour nous à travers ton beau message. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu qu'après l'invasion des sauterelles à la piqûre douloureuse, l'humanité n'était pas au bout de ses peines. Au son de la sixième trompette, quatre anges sont libérés de leur lieu de détention sur le fleuve Euphrate. Ce fleuve est mentionné dès le début de la Bible, et à la fin de la Bible, les quatre anges en sortent et célèbrent leur liberté retrouvée en exterminant le tiers des hommes. Ils semblent être aidés dans cette tâche par une armée très nombreuse. L'endurcissement du péché. Chers amis, débutons notre lecture. Apocalypse chapitre 9, les versets 20 et 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Dans le texte original grec, le mot traduit ici par « enchantement » est « pharmakeia », dont nous tirons notre mot « pharmacie ». Il désigne les drogues sous toutes les formes, autant légales qu'illégales. La grande tribulation sera une période caractérisée par l'utilisation de toutes sortes de drogues. Les drogues joueront un rôle majeur dans la vie des perdus et elles serviront à leur permettre d'endurer le jugement de Dieu pendant la grande tribulation. Plusieurs se tourneront vers les drogues après avoir été atteints par les morsures venimeuses des créatures démoniaques. Bien que le venin de ces créatures ne soit pas mortel, il sera très douloureux. Les gens essaieront alors toutes sortes de remèdes et de drogues pour les aider à tolérer la douleur. Rappelons que la meilleure solution est tellement plus simple. Il s'agit simplement de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Même aujourd'hui, nous assistons au même phénomène, à une moindre échelle. Les gens se détournent de Dieu, mais Dieu nous a créés pour vivre en harmonie avec lui. Et le fait de vivre sans Dieu provoque un mal de vivre chez l'athée. Je n'ai jamais rencontré un athée qui ne dépendait des drogues, de l'alcool, des cigarettes ou d'une autre forme d'accoutumance. Oh, bien sûr, certains sont convaincus de pouvoir arrêter quand ils le voudront, mais assez curieusement, ils préfèrent continuer même si cela compromet leur santé. Or, si vous êtes chrétien, Vous aurez sans doute remarqué que la consommation d'alcool est beaucoup moindre chez les chrétiens, même pendant les rencontres sociales. Nous sommes libres de prendre un verre, mais la consommation d'alcool devient vite sans grand intérêt pour une personne véritablement habitée par le Saint-Esprit. Le rôle des drogues. Au temps de la grande tribulation, la consommation de drogue occupera une place de choix dans la vie des gens. Les cultures et les religions du monde encourageront les gens à consommer ces produits. Nous assistons dès maintenant à ce genre de choses. Mais pendant la grande tribulation, le phénomène prendra une ampleur inégalée. Les gens voudront se tourner vers toute substance qui leur aidera à engourdir leur douleur ou à oublier leurs problèmes. Pendant très longtemps en Occident, la seule substance consommée à grande échelle était l'alcool. Mais depuis quelques décennies, toutes sortes de drogues sont offertes. Les compagnies pharmaceutiques et la pègre ne manquent pas de profiter de cette demande accrue. J'aimerais maintenant citer quelques lignes d'un livre sur l'Apocalypse écrit par le docteur J. A. Seiss, et je tiens à préciser que cet ouvrage a été publié en 1906. Pourtant, ce livre pourrait avoir été rédigé hier, tellement il s'applique à la situation actuelle et même peut-être encore plus à celle qui prévaudra pendant la grande tribulation. À la page 106, il élabore sur le sens du mot « enchantement ». Nous n'avons qu'à penser à l'usage des stimulants alcoolisés, de l'opium et du tabac. Ajoutez à cela toute la gamme des produits cosmétiques et médicamentés servant à augmenter l'attraction sexuelle et au lien entre les produits pharmaceutiques et la sensualité. Beaucoup de gens croient à l'efficacité des traitements provenant du monde occulte. De plus, on encourage les gens à transgresser les lois naturelles. On leur laisse croire que les dommages causés par une telle insouciance seront aisément réparés par l'absorption de médicaments. En conséquence, les activités criminelles provoquées par l'accoutumance à toutes sortes de drogues connaissent une hausse sensible. Ces produits libèrent et stimulent les passions les plus basses. Celles-ci rongent le tissu moral de la société. L'auteur de l'Apocalypse décrit toutes ces dépendances, déjà visibles de nos jours, comme étant caractéristiques de la corruption morale à l'époque de la Grande Tribulation, lorsque la sixième trompette sonnera. Depuis 1906, de nombreuses drogues se sont ajoutées à l'opium. Certaines d'entre elles sont synthétiques. Elles ont été produites par l'homme, car la nature n'aurait jamais pu produire de telles abominations. En plus, les drogues sont utilisées dans presque toutes les religions modernes qui utilisent la sexualité pour attirer des adeptes. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol, nous dit l'Apocalypse. Non seulement abusent-ils des drogues, mais en plus les hommes, vivant pendant la grande tribulation, se livrent à la débauche, au vol et au meurtre. Là encore, dès aujourd'hui, un tel mode de vie n'est plus un motif de honte, mais de fierté pour ceux qui le pratiquent. Et quiconque remet en question ces valeurs dégradantes se fait accuser d'être borné ou de nuire à la liberté d'expression. Ceux qui exigent le respect de leur liberté individuelle sont justement ceux qui sont le plus esclaves de leur tendance débauchée. Comme le dit si bien l'apôtre Jean, ils ne se repentent pas de l'œuvre de leurs mains. Ils vont même jusqu'à dire qu'ils font évoluer la société. De bons citoyens dociles, les enchantements, la débauche, le vol et le meurtre augmenteront et on leur attachera plus d'importance. Je pense que l'Antéchrist utilisera toutes ces choses pour mettre le monde à ses pieds. Déjà, à notre époque, l'humanité est rendue plus docile par la télévision et les drogues. Et pendant la grande tribulation, elle acceptera tout, comme sous l'effet d'une hypnose collective. De nombreux établissements encouragent la vente d'alcool. Non seulement est-ce bon pour les affaires, mais le client se montre moins exigeant quand vient le temps de lui présenter un spectacle. Sous l'influence de l'alcool, il rira plus facilement aux pires niaiseries. Un chanteur ou un humoriste, sans aucun talent, passera beaucoup mieux si les spectateurs ont pris quelques verres. De la même manière, les drogues et l'alcool aideront l'Antéchrist à acquérir le pouvoir. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 et 10, L'apôtre Paul écrit à son sujet, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » À partir du moment où un homme rejette l'évangile de Jésus-Christ et ferme son cœur à Dieu, il devient une proie facile pour les mensonges du monde. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, précise l'apôtre Jean dans son Apocalypse. Vous pensez que cela ne s'applique pas à vous, parce que vous n'avez à la maison aucune idole? Très bien. Alors, faites le tour de votre maison, sans oublier la cave et le grenier, et faites la liste des objets complètement inutiles et que vous avez achetés sur un coup de tête. Une véritable idole. Vous voyez, l'idole des temps modernes porte un nom, le matérialisme. Le lavage de cerveau provenant de la société de consommation dans laquelle nous vivons atteint des sommets inégalés. Dépenser est devenu le devoir moral de tout bon citoyen. On nous raconte même que le seul moyen d'éviter une nouvelle récession est de dépenser encore davantage. Peu importe, si vous avez besoin d'un produit, l'important est de faire rouler l'économie. De cette façon, les pauvres s'appauvriront encore plus en achetant à crédit, plus qu'ils ne gagnent, et les riches s'enrichiront de plus en plus en maximisant leur marge de profit. Le mot d'ordre à l'heure actuelle est de « dépenser sans penser ». En autant qu'on nous laisse notre télévision plasma, on ne dira rien. Dans un tel contexte, il est prévisible pour les puissants de ce monde. Le salut gratuit offert en Jésus-Christ constitue l'ennemi à abattre. Le chrétien, lui, devient un anachronisme, un marginal et un mauvais citoyen, car ses priorités ne sont pas centrées sur l'acquisition de biens matériels. Jésus nous avait dit à quoi nous pouvions nous attendre. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 19. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Au temps de l'apôtre Jean, les chrétiens étaient considérés de mauvais citoyens, et même des traîtres, car ils refusaient d'adorer l'empereur. Aujourd'hui, le véritable chrétien refuse de donner la priorité au bien de ce monde. Il obéit au conseil de son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, enregistré dans Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Je le répète. L'homme qui refuse Jésus-Christ se laissera facilement convaincre par les mensonges et les ruses du monde. Il cherchera à étancher dans des plaisirs temporaires et illusoires la soif de vivre pleinement la vie que Dieu avait planifiée pour lui dans son infinie sagesse. Le chrétien doit-il faire un vœu de pauvreté pour servir Dieu? Non. Il s'agit simplement d'une question de priorité. Je connais personnellement un chrétien millionnaire, mais son cœur est entièrement consacré à Dieu. Le problème est bien présenté par Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Selon le nouveau dictionnaire biblique d'Emmaüs, Mammon est une personnification de la richesse matérielle. Un chrétien peut très bien être riche, en autant que cette richesse ne l'empêche pas d'obéir à Dieu dans une volonté de service. Il s'agit simplement de mettre de l'ordre dans ses priorités, car Dieu réclame pour lui-même la première place dans notre cœur. C'est pourquoi Jésus résume son enseignement sur la richesse par cette sage parole que nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'alcool, les drogues, la débauche et les richesses matérielles sont tous des maîtresses exigeantes qui changent la vie de leurs victimes. Ils les rendent esclaves en leur promettant des plaisirs illusoires et passagers. Ces forces sont déjà actives aujourd'hui dans le monde. Mais au temps de la grande tribulation, leur attrait sera encore plus grand. Après la sixième trompette, le monde aura un bref répit. Nous avons déjà vu une première pause lorsque Jésus-Christ a ouvert le livre aux sept sceaux, entre le sixième et le septième sceau. La structure reste la même avec les sept trompettes, avec une autre pause entre la sixième et la septième trompette. Pendant la première pause des sceaux, deux groupes d'Israélites et de gentils ont été scellés pendant la grande tribulation. Ici, durant la deuxième pause, trois personnes nous seront présentées. Au commencement du chapitre 10, un ange puissant nous est décrit, et dans les premiers versets du chapitre 11, deux témoins seront présentés, mais non identifiés. L'ange puissant. Au verset 1 du chapitre 10 de l'Apocalypse, le rideau se lève sur un ange puissant venant du ciel. Lisons ce verset. Apocalypse chapitre 10, verset 1. « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. » Les opinions divergent fortement chez les principaux commentateurs bibliques et évangéliques concernant l'identité de cet ange puissant. Goddard, Vincent, Pittinghill, Deane, Ironside, Walter Scott et William Kelly identifient tous cet ange puissant à Jésus-Christ. Newell, Walvoord et autres ne vont pas aussi loin. Ils le considèrent seulement comme un ange doté d'une puissance et d'une autorité hors du commun. Je suis d'accord avec ceci. Quel que soit votre point de vue, vous serez en bonne compagnie. Le premier groupe est composé de théologiens dignes de confiance et pour lesquels j'entretiens le plus grand respect. Le Seigneur les aime et ils aiment le Seigneur. Si vous décidez de les suivre, vous serez en excellente compagnie. Mais je pense quand même avoir raison quand je m'en tiens à la thèse d'un ange puissant. Peut-être, mais quand même une créature, et non pas Jésus-Christ. Des preuves concluantes m'ont fait opter pour cette interprétation. Premièrement, Jésus-Christ n'apparaît jamais comme un ange dans l'Apocalypse. Il est vrai qu'avant son incarnation, il est connu dans l'Ancien Testament comme l'ange de l'Éternel. Mais après s'être fait connaître comme le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu marcher parmi nous, il n'a plus besoin d'assumer cette identité. Car, en réalité, il est le Fils de Dieu et lui-même Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Dieu se révèle progressivement dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il apparaît aux hommes d'une manière un peu floue. Dans le Nouveau Testament, les contours des trois personnes de la Trinité se dessinent plus distinctement. Alors, pourquoi, rendu à l'Apocalypse, Jésus assumerait-il à nouveau son identité d'ange? Ce serait une forme de régression, car nous savons déjà qu'il est Dieu et non pas une créature comme un ange. Après être ressuscité, Jésus-Christ a reçu un corps de gloire. Nous le voyons maintenant dans une position de grande puissance et de gloire à la droite de Dieu le Père. Ce serait une erreur de le voir encore comme un ange. Quand il était parmi nous dans son humanité, il n'était pas un ange, il était un homme. Il est donc révélé dans le livre de l'Apocalypse comme le Christ glorifié après son incarnation. Il est exalté au plus haut degré. Rappelons-nous une autre fois que le sujet principal de ce livre est la révélation de Jésus-Christ. De nouvelles gloires sur sa personne, sa puissance et sa performance nous sont dévoilées dans chacun des chapitres. Il est maintenant le juge de l'humanité qui l'a rejeté. « Je vis un autre ange puissant. » Un autre signifie un autre de la même catégorie. On nous a présenté un premier ange puissant au début du cinquième chapitre. Et nous avons aussi conclu que cet ange-là ne pouvait pas non plus être Jésus. Son aspect remarquable a peut-être conduit plusieurs personnes à le confondre avec Jésus-Christ. L'uniforme de l'ange. D'un bout à l'autre de la Bible, les anges sont les envoyés spéciaux de Jésus-Christ. Mais ici, dans ce dernier livre, cette fonction est particulièrement soulignée. Les anges portent en eux les accréditations reliées à la position exaltée du Seigneur Jésus-Christ. L'ange est descendu des cieux après avoir pris congé de Jésus-Christ. Ce dernier est celui qui est au milieu du trône. L'ange est enveloppé d'une nuée. Cette nuée est l'uniforme des envoyés spéciaux de Jésus-Christ. Les nuées de gloire sont effectivement associées avec le retour de Jésus-Christ, comme il le décrit lui-même dans l'Évangile de Marc, chapitre 14, le verset 62. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Mais l'ange décrit ici ne descend pas sur les nuées. Il est enveloppé d'une nuée. De plus, il ne s'agit pas ici du retour de Jésus-Christ pour établir son royaume. L'ange est plutôt le héraut qui annonce la venue imminente du Seigneur Jésus. Les anges avaient annoncé sa première venue sur terre lors de son incarnation il y a 2000 ans. Ils étaient apparus à Marie, à Zacharie et aux bergers pour annoncer cette bonne nouvelle. De la même manière, ils annonceront sa deuxième venue. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, précise l'apôtre Jean. L'uniforme de l'ange est coiffé d'un casque, rappelant l'alliance de Dieu avec Noé. Après le déluge, Dieu a promis à l'homme qu'il ne le jugerait plus de cette manière. Pendant la grande tribulation, les jugements de Dieu seront nombreux et sévères, mais il tient à nous rappeler que sa colère reste contenue. Son visage était comme le soleil. Un visage rayonnant comme le soleil constitue une preuve concluante d'une relation intime avec Dieu. Au premier chapitre de l'Apocalypse, verset 16, il identifie Jésus-Christ. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Mais, même sans être des dieux, certaines créatures ont été honorées de ce privilège. Parmi eux se trouve Moïse, après qu'il fut resté longtemps en présence de Dieu. Comme on peut le voir dans Exode, chapitre 34, le verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. La face de cet ange rayonne comme le soleil, car il est resté en présence de Jésus-Christ. On se rappelle aussi que les vêtements des anges, annonçant la résurrection de notre Sauveur, avaient le même aspect. C'est ce que nous lisons dans Luc, chapitre 24, verset 4. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Et plus tard, dans Apocalypse 18, verset 1, nous verrons que l'ange de l'Apocalypse éclaire la terre de sa gloire. Pourtant, personne n'a jamais prétendu qu'il était Jésus-Christ. C'est pourquoi je pense que l'ange décrit ici n'est pas Jésus non plus. Tenons-nous-en au message, tel qu'il est exprimé. Il s'agit d'un ange puissant, rien de plus, et ses pieds comme des colonnes de feu. Cela fait encore partie de son uniforme. Il est venu sur terre pour faire une proclamation solennelle et spéciale du jugement à venir. Toutes ces caractéristiques font de lui un ambassadeur et un messager de Jésus-Christ. Il est son envoyé spécial. Le Seigneur Jésus contrôle le déroulement des opérations et il est désormais le juge de toute la terre. Cher ami, Jésus a-t-il ta vie en contrôle? Est-il le Seigneur de ton existence et par le fait même de ton éternité? Sinon, je te conseille de faire le choix maintenant. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse chapitre 10, les versets 2 à 6. À vous tous, une bonne et agréable lecture.
Merci Régent. Je suis bien heureuse que tu aies fait le point sur la question du vœu de pauvreté. Quand j'étais très jeune, mes amis, j'admirais les gens qui faisaient le vœu de pauvreté en pensant qu'ils étaient de véritables héros qui devaient avoir une communion extraordinaire avec Dieu. Mais j'ai appris plus tard qu'il n'était vraiment pas nécessaire de faire ça. Et même à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, on peut voir que ce ne sont pas les sacrifices qui font plaisir à Dieu, mais ce qu'il veut, c'est qu'on fasse sa volonté, qu'on obéisse à ce qu'il nous enseigne. Et Régent nous a mentionné qu'il connaissait personnellement un chrétien qui est millionnaire, dont le cœur est entièrement consacré à Dieu. Et moi aussi, mes amis, je connais des chrétiens qui sont bien à l'aise financièrement et qui permettent à ceux qui servent Dieu en tant qu'évangélistes, en tant que missionnaires, de vivre de l'Évangile. Et même, je pourrais vous dire qu'en grande partie, ce sont des gens assez fortunés qui déboursent des montants qui permettent que nos émissions de radio et de télé passent en ondes. Et je suis convaincu que Dieu les a bénis monétairement, sachant qu'ils seraient de bons administrateurs, qui verraient à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer et que plein de gens soient sauvés en entendant prêcher la bonne nouvelle sur les ondes et même sur Internet. Je remercie Dieu pour ces gens. Dieu les connaît et je sais qu'il va les récompenser richement pour leur générosité, pour la manière dont ils administrent leurs biens, pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais je sais aussi qu'il y a des chrétiens très peu fortunés qui donnent dans l'œuvre de Dieu. Et je pense qu'ils seront surpris quand ils verront les récompenses que Dieu leur réserve dans son royaume. Quand j'étais petite, on nous enseignait l'histoire sainte à l'école. On apprenait plein d'histoires de la Bible sans savoir qu'elles venaient de ce livre de Dieu. Du moins, moi, je ne le savais pas. Et l'histoire qui m'a le plus marquée est celle de la pauvre veuve dans l'Évangile de Luc au chapitre 21, des versets 1 à 4. Vous connaissez probablement déjà cette histoire, mais permettez-moi de vous la lire. Voici. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Mes amis, combien cette histoire me touche. Pas vous. Quelle foi cette femme avait de mettre de son nécessaire. Pour moi, elle démontrait qu'elle avait confiance en Dieu. Elle savait qu'il pourvoirait à ses besoins, n'est-ce pas? Et elle était généreuse aussi. Elle cherchait premièrement le royaume et la justice de Dieu, comme il est écrit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 33. Et toi, mon ami, où est ton cœur concernant les offrandes pour le royaume de Dieu? Es-tu prêt à donner de ton nécessaire? Es-tu prêt à donner pour faire connaître l'Évangile, pour faire connaître aux gens qui connaissent pas Dieu encore combien il les aime, ce qu'il a fait en donnant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle? Soyons généreux, mes frères, mes sœurs, et donnons pour l'avancement du royaume de Dieu, sans nous inquiéter du lendemain. Le Seigneur a dit que le lendemain aurait soin de lui-même. Alors donnons généreusement pour Jésus-Christ, pour que son beau nom soit propagé.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épaté. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.